Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 30 janvier 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au Mali, les djihadistes ont repris temporairement le contrôle du camp de Sokolo qu'ils avaient attaqué dimanche. 3 soldats tchadiens et une civile ont été tués cette nuit dans une attaque sur l'île de Choua du lac Tchad. Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi à 170 morts en Chine. L'OMS tient une réunion d'urgence. Le Sénat américain interroge une dernière fois l'équipe de défense du président Donald Trump. Un vote sur les témoins peut intervenir demain. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Mali, après l'attaque contre l'armée dimanche à Sokolo, les djihadistes sont revenus la nuit dernière et ont planté leur drapeau au camp de la gendarmerie. Ils se sont retirés mais sont toujours aux alentours de la ville. Les FAMAS se sont repliés sur Diabali avant leur arrivée. Kassim Traoré.
Les djihadistes sont de retour à Sokolo et ils ont installé leur drapeau dans les camps de la gendarmerie. Une menace plane sur la ville. Nous avons alerté les autorités, mais jusqu'à présent, aucune réaction n'est venue d'elles, nous dit Ahmed Dramé, président de la jeunesse de Sokolo. Les maires de Sokolo, de son côté, pensent qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Parce que les gendarmes qui sont venus après l'attaque, ceux qui étaient là, sont tous partis. Nous sommes livrés aux terroristes, dit le maire très en colère. Dans la même nuit, aux environs de 3 heures du matin, plusieurs radicaux lourdement armés sont venus vers Nyono et Massina pour attaquer le poste militaire de Pointa. Pointa est l'un des importants verrous sur l'axe Markala-Nyono. Un renfort de FAMA a été dépêché sur place et après un moment d'échange de tirs, les assaillants se sont repliés vers Munipebugu. Cette fréquence de déstabilisation des positions des militaires est une situation qui inquiète bon nombre de personnes dans la région de Ségou, mais aussi dans le cercle de Direi et Gou. Où se trouve actuellement le Premier ministre. Des forains ont échappé ce matin à un enlèvement alors qu'une mine a été déjouée de justesse avant le passage du cortège du Premier ministre. Tombouctou, Kassim Traoré pour VOA Afrique.
Lors d'une conférence de presse au Pentagone, le secrétaire à la Défense Mark Esper a déclaré que les États-Unis ne retireront pas totalement leurs forces du continent africain. Le Pentagone examine toutes les positions de ses troupes à la lumière d'un nouvel accent sur le défi de grande puissance et moins sur la lutte antiterroriste. Le gouvernement tchèque envisage d'envoyer 60 soldats au Mali, au Niger et au Tchad sur accord du Parlement. Ils obtiendront un mandat pour rejoindre l'opération Barkhane jusqu'au 31 décembre 2022, indiquait le ministre de la Défense Lubomir Metnar. Les Tchèques prévoient de commencer à déployer leurs militaires en milieu d'année. L'opération anti-djihadiste Barkhane est en cours d'extension, laissant la place à une force d'intervention européenne appelée Takuba. Les forces de sécurité de Guinée font face à l'indignation après la diffusion d'une vidéo paraissant les montrer se servant d'une femme comme bouclier lors de troubles. Le policier principal protagoniste de la scène a été arrêté et le ministère de la Sécurité a présenté ses excuses à toute personne ayant eu à subir une de ces outrances. La vidéo situant la scène mercredi à Wanidara montre 4 policiers casqués faisant face à des jeunes lanceurs de pierres, dont des enfants. 3 soldats tchadiens et une civile ont été tués la nuit dernière dans une attaque attribuée aux djihadistes sur l'île de Choua dans le lac Tchad. Le point avec Eki Abadou.
Les éléments de Boko Haram ont attaqué notre position la nuit dernière sur l'île de Choua. Nous avons neutralisé 21 éléments de Boko Haram, a déclaré le général Taher Erda, chef d'état-major des armées. Ces forces ratissent la zone à la recherche des éléments de Boko Haram qui ont réussi à fuir, a-t-il précisé. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac Tchad, une vaste étendue entre le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. La recrudescence des attaques ces derniers mois a provoqué une dégradation de la situation humanitaire, augmentant considérablement le nombre de déplacés. Début janvier, l'ensemble des 1200 Tchadiens de la force conjointe déployée depuis des mois au Nigeria sont rentrés au Tchad pour être déployés autour du lac Tchad du fait de la multiplication des attaques.
Le porte-avions français Charles de Gaulle a repéré mercredi au large des côtes libyennes une frégate turque escortant un cargo acheminant des véhicules blindés de transport de troupes à destination de Tripoli, selon des sources militaires françaises. Le cargo Banin, battant pavillon libanais, a fait escalier dans le port de Tripoli. Selon le site Marine Traffic, ce navire croisait ce jeudi après-midi au large de la Sicile. Aujourd'hui même, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a dénoncé devant le Conseil de sécurité les violations des accords de Berlin par la communauté internationale pour arrêter les ingérences et les livraisons d'armes aux belligérants.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se réunit à nouveau aujourd'hui afin de déterminer si le coronavirus apparu en Chine constitue une urgence internationale. Le bilan de cette épidémie s'est alourdi à 170 morts en Chine après un bon sang précédent du nombre quotidien de décès. Jacques Aristide nous en dit plus.
La nouvelle réunion de l'OMS intervient alors que le nombre de patients contaminés a grimpé à près de 8000 en Chine, ce qui dépasse désormais largement celui de personnes infectées par le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002-2003. Une quinzaine de pays sont également touchés. Les Émirats arabes unis ont fait état du premier cas avéré au Moyen-Orient. Signal inquiétant, des transmissions interhumaines ont été enregistrées en Allemagne, au Japon et au Vietnam. La métropole de Wuhan, d'où est partie cette épidémie de pneumonie virale, est coupée du monde depuis une semaine, comme la quasi-totalité de la province environnante du Hubei. Les États-Unis et le Japon ont évacué une partie de leurs ressortissants. Un deuxième avion américain est attendu dans les prochains jours. D'autres pays étrangers préparent également des rapatriements. Quant à la Russie, elle va fermer sa frontière avec la Chine demain. Pour sa part, le Fonds monétaire international indique que l'impact sur l'économie mondiale dépendra de la durée de l'épidémie.
Le New York Times cite des écrits attribués à l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, affirmant que Donald Trump souhaitait geler une aide à l'Ukraine pour que Kiev enquête sur Joe Biden. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les démocrates réclament que John Bolton et d'autres responsables de l'administration Trump viennent témoigner à ce procès historique, attribuant des écrits à un livre non publié de l'ancien conseiller à la sécurité nationale. Le quotidien de New York avance que Donald Trump a confié à M. Bolton son refus de verser 391 millions de dollars d'aide à l'Ukraine pour que Kiev ouvre une enquête sur Joe Biden et son fils Hunter. Depuis cette fuite, les questions des sénateurs se sont transformées en débat sur la présence de témoins. Patrick Philbin, avocat de la Maison-Blanche, estime qu'appeler des témoins pourrait faire traîner ce procès pendant des mois. Une employée du Conseil national de sécurité a écrit une lettre à l'avocat de Bolton, lui expliquant que son livre ne peut pas être publié dans sa forme actuelle, car contenant des informations classifiées. Un vote sur l'audition des témoins peut intervenir avant la fin de la semaine. Il sera suivi d'un autre vote sur l'acquittement ou la destitution du président, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire des États-Unis.
À la veille de la sortie des Britanniques de l'Union européenne, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a vanté à Londres les bénéfices d'un rapprochement post-Brexit. « Nous voulons faire passer le Royaume-Uni en tête de liste », a assuré le secrétaire d'État lors d'une rencontre avec son homologue britannique Dominic Raab, avant d'être reçu dans la journée par le Premier ministre Boris Johnson. Le compte à rebours a commencé d'ailleurs avant la séparation historique qui sera marquée officiellement vendredi à 23h GMT après 3 ans et demi de crise provoquée par le référendum de 2016. Les formations politiques irakiennes mènent des discussions pour trouver un successeur au Premier ministre démissionnaire Abdelmadi. Le président Barham Saleh a donné au Parlement jusqu'au 1er février pour désigner un nouveau chef de gouvernement et a prévu que, passé ce délai, il assignerait à ce poste la personne qu'il jugera la plus acceptable pour son pays, confronté à un mouvement de contestation. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco présentée par Nani Talani.
Le Zimbabwe et l'Union européenne ont lancé le projet d'appui à un accord de partenariat économique de 10 millions d'euros qui devrait dynamiser le programme de réforme économique du pays et les activités des petites et moyennes entreprises. Le projet ZEPA veut renforcer l'intégration régionale et internationale du Zimbabwe grâce à la réduction des coûts de dédouanement des marchandises et à l'amélioration de la compétitivité et de la capacité d'exportation des PME. Celles-ci emploient environ 90% de la main-d'œuvre et contribuent à plus de 60% au PIB. La société de télécommunications MTN investira 1,6 milliard de dollars sur 3 ans dans son réseau et ses opérations au Nigeria, son plus grand marché, après avoir résolu une affaire juridique majeure avec le gouvernement. Plus tôt ce mois-ci, le procureur général du Nigeria a déclaré qu'il avait retiré une demande fiscale de 2 milliards de dollars contre MTN, mettant fin au dernier désaccord de la société avec les autorités nigérianes. Terminons par la croissance économique de l'Afrique qui devrait atteindre environ 4% cette année grâce aux investissements dans les infrastructures et les exportations de ressources naturelles, a annoncé ce jeudi la Banque africaine de développement. L'année dernière, la croissance était inférieure au taux moyen de 5% de la dernière décennie en raison du ralentissement de la croissance dans les 5 grandes économies du continent, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'île Maurice se retire de la CAN de futsal.
Oui, l'île Maurice a été invitée par son gouvernement à se retirer du tournoi. Une décision surprise alors que l'équipe a déjà entamé la compétition. Elle devait jouer son second match de ce groupe ce jeudi face à la Libye. L'île Maurice avait remplacé l'Afrique du Sud démissionnaire pour des raisons politiques liées au lieu d'organisation de la CAN futsal qui se déroule à Laayoune, dans le Sahara occidental, un territoire sur lequel l'autorité du Maroc n'est pas reconnue par la communauté internationale. Pour l'heure, Amir Soba, président de la Fédération mauricienne de football, fait de la résistance.
Issouf Sissoko s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux.
Le Malien de 18 ans qui est prêté pour 18 mois avec option d'achat va rejoindre l'équipe réserve qui joue en National 3. Le milieu de terrain axial formé au CFC Daoula à Bamako rejoint l'effectif de Manu Djoudessili en National 3. Issouf Sissoko fait partie de la sélection internationale des moins de 20 ans du Mali et a notamment participé aux Jeux africains 2019. De son côté, le Ghanéen de 18 ans Isaac Nouhou a paraffé un contrat de 2 ans et demi avec le club belge de Kass en Jupiter Pro League. Il a été formé à l'Aspire Academy au Sénégal. Par contre, rien n'est encore clair pour Victor Wanyama. D'après le magazine France Football, le Kenyan de 28 ans a été proposé à Rennes. Victor Wanyama devait quitter Tottenham l'été dernier, mais n'est finalement pas parti. Il était convoité par le Cercle Bruges et avait aussi été proposé à Marseille.
Eden Hazard revient à l'entraînement.
Oui, l'attaquant belge de 29 ans a participé à son premier entraînement avec le Real Madrid 2 mois après sa blessure à la cheville droite. Recrue star des Merengues lors du dernier mercato d'été, Eden Hazard s'est blessé en novembre dernier lors d'un contact avec son compatriote Thomas Meunier contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Une simple contusion avait d'abord été détectée chez le joueur qui devait être indisponible 10 jours, mais la microfracture détectée début décembre au même endroit a prolongé son absence. Malgré l'avancement de son rétablissement, il paraît peu probable que le Belge soit totalement remis pour le derby de Madrid contre l'Atlético samedi à Santiago Bernabéu pour la 22e journée de Liga.
Le Brésilien Lúcio raccroche à 41 ans.
Oui, le défenseur brésilien champion du monde en 2002 avec la Seleção a annoncé qu'il prend sa retraite à 41 ans. Après avoir disputé 2 saisons en 4e division avec la Brésilienne C, né en 1978, Lucimar da Silva Ferreira, plus connu sous le nom de Lucio, a débuté sa carrière dans le club de sa ville natale, Planaltina, avant de taper dans l'œil de l'international Porto Alegre, qu'il a recruté en 1997. Il est ensuite allé au Bayern Leverkusen en 2001, puis le Bayern Munich, avec qui il a été sacré triple champion de la Bundesliga en 2005, 2006 et 2008. Mais c'est finalement en Italie que le Brésilien a connu sa saison la plus faste en club, avec le fabuleux triplé avec l'Inter Milan remportant la Serie A, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions. Avec son équipe nationale, Lucio était titulaire lors du 5e et dernier titre mondial de la Seleção au Japon et en Corée.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition maintenant les dossiers du jour. Au Mali, après l'attaque du camp de la gendarmerie de Sokolo dimanche qui avait fait une vingtaine de morts et une dizaine de blessés parmi les soldats, les djihadistes sont revenus la nuit dernière pour brûler ce camp et avaient même planté leur drapeau sur les lieux. Modibo Dembélé a joint Malik Konaté, journaliste blogueur à Bamako.
À l'heure actuelle, l'armée malienne qui a été attaquée le dimanche, très tôt le matin par les djihadistes, à 15 km actuellement du village de Sokolo. Hier soir, les djihadistes se sont retournés encore dans ce village-là pour prendre le camp en otage encore. Ils ont brûlé tout ce qui restait comme outil de travail ou de nos femmes. Ils ont dormi dans le camp et très tôt le matin, ils sont repartis encore, ils sont repliés et l'armée a envoyé des hélicos pour surveiller le village. Mais selon le maire de la localité que nous avons envoyé par téléphone, nous avons savoir qu'ils ont alerté les autorités compétentes depuis le samedi pour leur dire que les djihadistes sont aux alentours du village et ils veulent attaquer la position de nos femmes. Mais il n'y a eu aucune réaction de la part des autorités.
Lorsque les djihadistes sont retournés, est-ce qu'ils se sont attaqués à la population?
Et le président de la jeunesse de la localité nous a fait savoir que les djihadistes ne se sont pas attaqués aux habitants de ce village. Ils sont juste venus occuper le camp, installer leurs drapeaux et brûler le reste des matériels qui restaient dans ce camp.
Savez-vous pourquoi l'armée n'est pas intervenue pendant que les djihadistes passaient la nuit à Sokolo après leur attaque?
Selon les informations que nous avons recoupées, après la visite du gouverneur et le directeur général de la gendarmerie, les militaires qui étaient à Sokolo ont fait savoir à nos autorités qu'ils ne peuvent pas rester sans les moyens conséquents. Ils ont demandé à nos autorités de leur donner les moyens pour qu'ils puissent rester au village. Sans quoi, ils ne vont pas rester. Donc, nos femmes se sont repliées pour venir à 15 km du village de Diabali.
C'était le journaliste malien Malik Konaté. Modibo Dembélé a par ailleurs joint le maire de Sokolo, Dramane Simbara.
Le dernier développement sur le terrain, c'est que après l'événement du lundi, les militaires qui étaient en poste à Sokolo et les renforts qui étaient venus pour les sécuriser ont quitté leur poste. Donc le village était réfugié sans aucun porteur d'uniforme. Hier, mercredi, les 18h30, les djihadistes sont revenus. Ils sont retournés au camp pour aller détruire le peu qui restait. Donc ils ont fait leur force, ils sont arrêtés dans la nuit et ils sont repartis depuis le matin.
Pendant ce temps-là, où était l'armée malienne?
L'armée malienne qui était sur place à Sokolo se sont repliés sur le Diabali. Donc très simplement, il n'y a pas une seule force de l'armée malienne à
Savez-vous pourquoi l'armée n'est pas intervenue pendant que les djihadistes passaient la nuit à Sokolo?
On n'a pas du tout compris du fait que l'armée s'est retirée du village. On n'a pas d'explication à ça et on n'a pas du tout compris. Ils n'étaient pas là qu'ils sont revenus.
Est-ce que vous avez pu avoir une réaction de la part des autorités régionales ou bien nationales, comme par exemple le gouverneur?
Oui, l'information a été partagée et au niveau administratif et au niveau militaire. On a donné l'information à tous les niveaux. Mais sur la date, au moment où je vous parle, il n'y a pas de réaction.
Lorsque les djihadistes sont revenus, est-ce qu'ils se sont attaqués aux populations civiles?
Non, heureusement, ils n'ont pas touché la population civile. Donc, ils sont venus même en ville, à côté de la résidence du sous-préfet. Ils étaient aussi au niveau de la mairie civile et n'ont pas fait de dégâts à l'intérieur du village.
Quel est le sentiment général qui prévaut à Sokolo actuellement face à cette situation?
À Sokolo, que ce soit à mon niveau ou au niveau de toute la population, c'est la déception, la colère et l'amertume. Parce qu'on se sent abandonné par les véhicules. Nous n'avons pas une mission de défense.
C'était Dramane Simbara, maire de Sokolo, dans le centre du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le président du Bénin, Patrice Talon, a achevé hier une visite de travail entamée lundi ici à Washington. Il a eu des rencontres notamment avec des responsables du FMI, de la Banque mondiale et du gouvernement américain, dont le secrétaire d'État Mike Pompeo. La lutte contre le terrorisme était l'une des questions des échanges avec le chef de la diplomatie américaine. Monsieur Talon a déclaré à VOA Afrique que la frontière du Bénin avec le Nigeria sera bientôt opérationnelle. C'était au micro d'Irénée Hermanongo.
Il y a eu beaucoup de travaux, de centre de travail, d'entretien avec notre grand voisin pour remédier rapidement à cette situation. Théoriquement, dans les semaines à venir, ça devrait se faire selon les engagements de nos voisins, puisque nous avons pris des mesures, les deux administrations, douanières, la police de ces deux pays, pour entreprendre des missions, des patrouilles, une coopération qui devrait satisfaire les exigences de nos voisins qui estiment que les frontières sont trop poreuses et que des produits qui sont prohibés au Nigeria viennent facilement des pays frontaliers, ce qui justifie l'essentiel de leurs mesures de fermeture de frontières. Dans les prochaines semaines ou prochains jours, cette situation devrait se normaliser.
Est-ce que lors des tractations, vous notez tout au moins une bonne foi du côté nigérian?
Si, on observe une bonne disposition d'esprit. Je pense que ça va tout rentrer dans l'ordre bientôt.
Monsieur le Président, parlons justement du Nigeria. Récemment, Abuja a remis en cause la monnaie unique, ECO, telle qu'annoncée par le président Alassane Ouattara. Quelle est la position exacte du Bénin sur cette monnaie?
Le Nigeria, les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UMOA n'ont pas remis en cause la monnaie unique. Ils ont fait état du fait que ECO sera la monnaie unique de toute la CEDEAO et non d'une partie de la CEDEAO que sont les pays de l'UMOA. Il y a à clarifier un élément de langage. Le nom ECO ne sera vraiment adopté que quand d'autres pays de la CEDEAO vont intégrer cette monnaie unique. Ils ont raison. Nous voulons aller vite pour que l'ECO soit une réalité et nous avons déjà dès maintenant annoncé cela. Mais il faut noter une chose. L'intégration monétaire, la naissance de l'ECO pour l'ensemble des pays de la CEDEAO est un objectif noble. Nous y tenons, nous voulons y aller vite, mais l'impératif du jour, c'est la stabilité monétaire. La volonté d'aller à l'ECO, et même vite, ne remet pas en cause du tout l'impératif de la stabilité monétaire, ainsi que le respect par tous des critères de convergence.
C'était le président béninois Patrice Talon.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi à 170 morts en Chine. La France s'apprête, dans le sillage des Américains et des Japonais, à évacuer ses ressortissants de Wuhan, ville coupée du monde depuis une semaine. L'Organisation mondiale de la santé s'est réunie ce jeudi pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Éric Manirakiza a joint à Brazzaville le responsable des opérations d'urgence pour l'OMS en Afrique, Ndakonan Michel Yao.
Les symptômes peuvent aller du simple rhume à une forte détresse respiratoire, c'est-à-dire l'incapacité de respirer normalement, avec des symptômes de la grippe ordinaire que sont notamment la fièvre et autres. Donc c'est un peu les symptômes d'un rhume ou bien d'une grippe normale. C'est seulement la cause de ce nouveau virus, qui est tout nouveau, c'est un virus qui provient de l'animal et qui transmet à l'homme et qui par la suite on a une transmission d'homme à homme et c'est vraiment la préoccupation actuelle.
Et comment se prévenir?
Pour se prévenir, d'abord, c'est des mesures d'hygiène, comme ce qu'on conseille dans la grippe normale. C'est qu'il faut absolument se laver régulièrement les mains. Et lorsqu'on est à côté d'une personne qui tousse ou une personne qui éternue, c'est de se protéger et que les personnes qui ont des symptômes de rhume et autres puissent aussi se protéger des autres, c'est-à-dire lorsque ces personnes touchent ou se mouchent et puis doivent se laver les mains. L'autre aspect, c'est éviter autant que possible ces derniers temps d'être en contact avec des animaux vivants, je veux dire dans les zones de poulailler ou autres, parce que c'est un virus qui est passé d'un animal à l'homme et pourrait peut-être repartir chez l'animal et revenir encore beaucoup plus renforcé. Et puis l'autre conseil, c'est que si on a des symptômes et qu'on a une histoire de voyage des épicentres, c'est-à-dire des pays qui ont rapporté des cas, il faut absolument se référer à une structure de santé parce que c'est aller très vite dans les structures de santé pourrait augmenter les chances de survie avec des traitements symptomatiques et puis l'assistance respiratoire au cas où il y aurait des complications et cela permet aussi d'être éloigné de la famille et afin d'éviter une contamination secondaire.
Y a-t-il des cas déjà identifiés au niveau de l'Afrique? Est-ce que des pays africains sont suffisamment préparés pour y faire face?
C'est un nouveau virus, donc je veux dire tout le monde se prépare, mais il y a bien sûr des pays beaucoup mieux nantis, ceux qui ont des services de santé beaucoup plus solides comme dans l'Occident. Mais en Afrique, beaucoup de pays font déjà face à plusieurs maladies et donc il y a une certaine fragilité du système de santé par rapport à ce nouveau virus. Et nous, OMS, notre rôle c'est justement de les accompagner. Il y a des directives qui ont été adressées aux différents ministres de la santé dans notre région pour mettre en place des mécanismes de détection. C'est vraiment la clé. Il faut très vite détecter pour qu'on se limite à un minimum de cas. Parce que si la maladie venait à se propager dans les communautés, le nombre de cas importants serait difficile à gérer. Et deuxièmement, on s'est travaillé avec les partenaires, ONG et autres, à préparer des structures de prise en charge au cas où on a une contamination de masse. Et il faut absolument aussi continuer à éduquer, communiquer pour qu'il n'y ait pas de panique et que les personnes qui sont exposées venant des zones contaminées puissent en toute confiance se signaler au service de santé et éviter de contaminer toute leur communauté, leur famille surtout.
C'était le docteur Ndakono Michel Yao, responsable des opérations d'urgence pour l'OMS Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Malawi, considéré le rastafarisme comme une religion, était interdit, y compris le port des dreadlocks, un symbole religieux rasta. Aujourd'hui, les rastas se réjouissent d'une décision de justice qui permettra à leurs enfants d'aller à l'école avec cette coiffure. Une bonne nouvelle pour Ali Nansolo, qui vit sur la montagne Vue de l'Empereur, un endroit honorant une visite de l'ancien souverain éthiopien Haïlé Sélassié. Irène Hermanungbo nous en dit plus.
Comme d'autres rastas, Nansolo pense que Sélassié était un prophète issu de la lignée du roi biblique Salomon et qu'il était envoyé par Dieu pour libérer les Africains noirs du colonialisme. Mais jusqu'à la semaine dernière, les quelques milliers de rastas du Malawi attendaient toujours d'être libérés d'un héritage particulier, une interdiction des dreadlocks dans le système scolaire public. Le fils aîné de Nansolo, Ismaïl, interdit des classes depuis 2017, est soulagé de pouvoir enfin poursuivre ses études.
Je suis très heureux que les tribunaux se soient prononcés en notre faveur. Maintenant, je suis libre et je serai de retour à l'école. J'étais une personne très triste parce que je ne pouvais pas aller à l'école, une situation qui signifiait la fin de mon avenir et de mes rêves. Je suis reconnaissant envers mon père qui s'est battu afin que je puisse être autorisé à retourner à l'école.
Pendant plus d'une décennie, Nansolo avait fait campagne, écrit des lettres aux enseignants, fait pression sur le ministre de l'Éducation et organisé des manifestations. Il s'est même rendu à Lilongwe, la capitale, pour rencontrer des fonctionnaires du ministère qui lui ont dit qu'il ne pouvait rien faire.
Si nos enfants vont à l'école et s'instruisent, nous avons des réponses à certains de nos problèmes, qu'il s'agisse de médecins, d'enseignants, d'infirmières, de chauffeurs et de journalistes comme vous. On a besoin d'avocats rasta. Donc l'éducation est très importante pour tout le monde.
Dans son combat, Nansolo, ce couturier et acteur à temps partiel, avait sollicité l'aide d'avocats pour défendre les droits des citoyens rasta du Malawi. Un tribunal a statué en leur faveur en 2017, mais le gouvernement n'a appliqué la décision dans les écoles publiques que le 14 janvier 2020, autorisant Ismaïl et tous les enfants de Dja, comme ils appellent Dieu, à retourner en classe. Chikondi Chizosi est avocate et défenseur des droits de l'homme.
La loi exige que toute limitation des droits ne constitue pas une négation totale des droits. Donc, pour ces enfants qui n'ont pas les moyens, leurs parents ne peuvent pas les envoyer dans des écoles privées. C'est une négation totale car ils ne peuvent pas aller à l'école. Leur seule option, c'est l'école publique. C'est pourquoi nous avons dit non. Cette politique est déraisonnable et non justifiée dans une société démocratique.
Le mouvement n'a toujours pas été traité avec bienveillance par les gouvernements africains. Les rastas sont persécutés même dans leur vénérée Éthiopie et la consommation de la marijuana est utilisée comme prétexte pour les enfermer.
c'est la fin de cette émission. La technique, c'était Michel Joseph. À la présentation, Nathalie Barge. Restez avec nous dans un instant, dans quelques secondes. Un rappel des grands titres de l'actualité avec Henri Francisque. Très bonne soirée à toutes et à tous.
VOA Afrique, les infos.